Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui, parce que c'est une joie pour moi de me retrouver parmi vous, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. J'ai vu Colette, que je n'avais pas vue depuis tant d'années, et puis d'autres. Et je voulais vous dire, avant de commencer, que la dernière église de la série des sept églises, l'église de Laodicée, l'église tiède, eh bien, il est dit, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, c'est-à-dire qu'il est dehors. Et il vaut mieux être peu nombreux et chaud que tiède et pas avoir le Seigneur dans la maison. Je me tiens à la porte et je frappe. Voilà ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Hein. C'est quand même grave. Hein. Et c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la flamme. Hein. Et c'est certain qu'il vaut mieux un petit groupe chaud qu'une grande assemblée tiède et qui s'éteint et qui meurt. Excusez pour ma voix, qui est un peu enrayée. Alors, pour vous dire un petit peu pourquoi je suis ici, eh bien, ça fait peut-être 35 ou 40 ans maintenant que le Seigneur a mis sur mon cœur, même avant que je sois converti, Israël. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'amour d'Israël, et à chaque fois que se passe un événement en Israël, j'ai les cheveux qui dressent, et vraiment le Seigneur m'a demandé de chercher dans sa parole ce qui peut se produire à la fin des temps, et aussi pour préparer l'Église à ce qui va arriver, hein, le retour du Seigneur. Alors, je fais ça, je dirais, pour mon plaisir, hein, mais aussi pour l'Église. Et j'ai pu observer que depuis que j'ai repris ce travail, parce que je l'avais abandonné pendant un temps, mais je l'ai repris cet été, et le Seigneur m'a donné des nouvelles indications, de nouvelles choses qui sont venues s'ajouter et qui sont vraiment étonnantes. Étonnantes. Alors, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Et par exemple, je voudrais vous donner une petite indication comme quoi il n'y a pas de hasard. Vous savez que il y a une fête, enfin c'est pas une fête, c'est un jeûne qui est fait en Israël le 10 du mois de Tevet. C'est quelque chose d'assez particulier parce que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 24 et au verset 1 à 6, il nous est dit la neuvième année, le dixième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, il s'est produit que le roi de Babylone a fait le siège de Jérusalem. Et en commémoration de ça, tous les ans, le 10 du mois de Tevet, les Israélites, les Israéliens font un jeûne. Eh bien, figurez-vous que Saddam Hussein, qui avait prévu de reconstruire Babylone, a été pendu ce jour-là. Ça n'est pas étonnant, ça n'est pas du hasard. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette année, c'était le 31 décembre 2006, et ça correspondait au 10 du mois de Tevet. Donc c'est pas du hasard, vous voyez, et Dieu tient sa parole. Alors, il y aurait d'autres choses, peut-être que je le dirai tout à l'heure, d'autres choses sur la précision de Dieu, hein, mais je voudrais vous parler d'autres choses. Pour vous dire, très honnêtement, je me disais, de quoi je vais parler? Bien sûr, je savais que c'était sur la fin des temps. Hein. Mais il y a tellement de choses que je me suis dit, Seigneur, quel est le sujet que tu veux que j'aborde? Alors, il s'est trouvé, peut-être vous savez ce que je vais vous dire, mais il s'est trouvé que j'ai appris cette semaine, moi, par hasard, et je l'ai découvert, que le 25 juillet 2006, le mardi 25 juillet 2006, et ça a été publié à la télévision CNN, ce que je vais vous dire. Je vais vous lire le texte. Un manuscrit du premier millénaire, ouvert au psaume 83 a été trouvé dans une tourbière en Irlande. Vous le savez, ça? Ils vous l'ont dit. Ce vieux livre a été découvert par un ingénieur qui creusait dans la tourbe avec une pelleteuse. Ce manuscrit d'une vingtaine de pages, datant du 9e ou 11e siècle, on ne sait pas exactement, dit que c'est la première découverte, alors Bernard Menhan dit que c'est la première découverte d'un manuscrit médiéval depuis 200 ans. C'est vraiment un miracle. Premièrement, c'est quasi impossible que quelque chose d'aussi fragile ait pu se conserver dans une tourbière. Deuxièmement, que ce manuscrit ait pu être vu et déterré avant qu'il ne soit détruit. Et tout ça confine au miracle. Et en plus, il était ouvert à la page du psaume 83. Alors, Jean-Marc Taubois, il en parle du psaume 83, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler aussi aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter à le prendre, ce psaume 83. On va le lire, et puis ensuite, je vais essayer de vous donner quelques explications dessus. C'est un psaume prophétique, qui est magnifique. Ô Dieu, ne reste pas en silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, et les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Gison. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alors, évidemment, pour comprendre ce psaume-là, eh bien, il faut fouiller. Il faut fouiller. Parce que ce n'est pas évident. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour pouvoir comprendre quelque chose à toutes ces prophéties de la fin des temps, en tout cas, moi, je fais comme ça. Je l'étudie déjà d'une façon chrétienne, mais j'ai eu aussi cette chance de pouvoir connaître les prophéties islamiques, de pouvoir également avoir une certaine vision israélite des choses. Et grâce à ces trois visions, on arrive à faire sortir quelque chose. Par exemple, si vous prenez le mot islam, islam en arabe, ça veut dire soumission, soumission à Dieu. Mais si vous le prenez par l'autre bout de la lunette et par l'aspect israélite des choses, hébreu, Salam, ça veut dire pas de paix. Vous voyez, c'est une autre façon de lire le même mot. Et donc, en regardant de différents axes, on finit par se dire, tiens, qu'est-ce que Dieu veut dire ? Alors, on va. La première chose qui me frappe, moi, dans ce psaume, c'est qu'on trouve deux peuples unis. Il y a Édom et Ismaël. Alors, on va parler de ça. Et puis, il y a un troisième peuple qui est cité en dessous, qui est Amalek. Alors, Isaac, le père, d'Ésaü et d'Israël. C'était un bon garçon, obéissant, puisqu'il va épouser sans discuter celle qu'on a choisie pour lui. Hein? Il va bien gérer ses affaires, les affaires de son père. Et son nom, Isaac, veut dire « il rira » au futur. C'est pas au présent. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et c'est certainement pour la fin des temps. Alors, c'est-à-dire que les Juifs attendent de pouvoir avoir ce rire. Isaac est né d'un couple âgé et son frère, Ismaël, était certainement beaucoup plus actif que lui. D'ailleurs, il y a un verset dans Genèse 21 au verset 20 qui dit qu'Ismaël était un tireur d'arc. Donc c'était un chasseur. Et Isaac va donc se marier à 40 ans et il va devoir attendre 20 ans, donc c'est à 60 ans, c'est-à-dire à mon âge, hein, qu'il va avoir ses enfants. Et alors, vous savez tous que les enfants se heurtaient dans le ventre de la maman. Et il nous est dit, cette prophétie, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, le plus petit, c'était Jacob, le plus grand, Ésaü, et ça ne s'est encore jamais produit. Ça ne s'est encore jamais produit. Et on va le voir se produire à la fin des temps. Cette prophétie est pour la fin des temps. Alors, c'est très étonnant aussi de voir que dès le ventre de la maman, il y a une rivalité entre ces deux. Et Dieu dit, ça va donner deux nations, deux peuples. C'est une rivalité. Et on voit également que, à la sortie du ventre de la maman, Jacob a attrapé le talon de son frère. Hein, on connaît cette histoire. Mais c'est quand même étonnant qu'un nouveau-né puisse faire ça. Hein? Et c'est-à-dire que ce Jacob, il avait déjà cet esprit d'autodéfense et de vouloir rattraper son frère pour pouvoir finalement le tirer en arrière et passer devant. Hein? Alors, le nom de Yaakov, vient de Ekev et qui signifie talon. Le nom d'Ésaü, que l'on traduit souvent par poilu, velu, hein, vient de Esav, qui signifie fer. Autrement dit, celui qui se situe dans le monde de l'action. Ésaü, c'est quelqu'un qui va faire de l'action. Beaucoup d'action, beaucoup d'activité. Ça va être un constructeur, ça va être un fabricant, ça va être quelqu'un d'actif. Et on sait très bien que, on le voit à travers toute l'histoire biblique, que Jacob a toujours eu cette capacité de repousser les attaques d'Ésaü. Toujours. Et les rapports entre Ésaü et Jacob ont toujours été conflictuels. Et la prophétie selon laquelle donc le cadet dominera sur l'aîné s'accomplira, et les Juifs le disent qu'à la fin. Ésaü avait de nombreux points communs avec Ismaël. Hein? D'abord, ils sont tous deux aimés et respectés de leur père. C'est vrai que Abraham a protégé Ismaël quand il a fallu le chasser, etc. Et il était aimé de son père. Et Ésaü était aimé de son père aussi. Hein? Et pourquoi? Ben parce qu'ils avaient des points communs. D'abord, Abraham, c'était quelqu'un qui avait longtemps erré, qui avait beaucoup voyagé, traversé des déserts, etc. Ismaël aussi. Hein? Ismaël va traverser des déserts. Vous avez Ésaü qui était aimé de son père parce qu'il chassait, qu'il ramenait du gibier, etc. Bon, alors Ismaël est un homme du désert et c'est un guerrier mystique. Ismaël ne hait pas Isaac, il n'a pas de haine pour lui, Mais au fond, il y a certainement une jalousie qui est là en dessous, hein, parce qu'il a été chassé. Il a été chassé à cause de lui. Et la tradition juive rapporte l'histoire suivante. Quand Rebecca, c'est une histoire que les juifs ont toujours des bonnes petites histoires comme ça. Quand Rebecca, enceinte, se promenait et passait devant un lieu idolâtre, Ésaü lui donnait des coups pour sortir et se rendre dans ce lieu. Quand elle passait devant une maison d'études, c'est Jacob qui se manifestait pour sortir et étudier. Et à travers cette petite histoire, eh bien, on voit les deux caractères des deux frères. Et à l'inverse d'Ismaël, Ésaü n'est pas intéressé par la foi. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire du plat de lentilles, où Jacob va arracher le droit d'aînesse. Finalement, Ésaü a perdu son droit d'aînesse pour un plat de roux, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il renonce à sa part matérielle. Mais il renonce à poursuivre la démarche spirituelle qui avait été initiée par Abraham. C'est ça qui a été fait à ce moment-là. Et donc, il renonce finalement à l'exercice du culte et aux 613 commandements que Moïse a donnés. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave qui s'est produit là. Et il pense que son destin est ailleurs, qu'il est dans une ascension matérielle et politique. Et donc Ésaü va prendre son élan comme ça. Et Ésaü méprise la parole de Dieu. Comment on sait qu'il méprise la parole de Dieu? Eh bien parce qu'à l'âge de 40 ans, il va, à la grande déception de ses parents, il va prendre pour épouse des femmes cananéennes et la fille unique d'Ismaël. Et on voit là un premier mariage, quelque chose de fondamental et qui va nous parler jusque dans la fin des temps, c'est le mariage d'une fille d'Ismaël et de Ésaü, que l'on va appeler Édom. Et on les retrouve dans le psaume 83. Effectivement, il se marie avec sa cousine. Alors, la fascination d'Ésaü pour Ismaël, son oncle, s'explique de différentes façons, mais entre autres par une sorte de jalousie et de haine pour Jacob, parce que celui-ci lui a tout pris, son droit d'aînesse, l'amour de sa mère, parce que Ésaü n'était pas aimé par sa mère, et aussi la bénédiction du père. Et on trouve là une raison humaine pour laquelle Ésaü, Édom, va haïr, et haïr pendant des siècles, Israël. L'opposition d'Ismaël par rapport à Jacob est différente. Jacob n'est pas de la même, c'est pas de la même nature. Ismaël a reçu une grande promesse, lui. Il a reçu une grande promesse. Il sera un peuple innombrable sur des territoires immenses. Et ce qui gêne Ismaël, c'est finalement ce petit bout de terre qui se trouve au milieu de ses terres à lui. Et qui, finalement, ça, ce petit bout de terrain-là, il voudrait bien le récupérer. Et finalement, Ismaël, c'est pas mettre à mort Israël qui veut. Non, c'est l'étouffer. C'est faire en sorte que l'État d'Israël disparaisse. On n'est pas obligé de tuer les Juifs. Ils peuvent rester là, mais sous domination Ismaël. Et c'est pas la même chose. C'est pas le même genre de haine. C'est pas la même chose. Mais il y a une alliance qui se fait entre Édom et Ismaël, une alliance de raison, un mariage de raison qui se fait. Alors, si on prend la descendance d'Ésaü, ça c'est écrit dans Genèse 36, on ne va pas tout lire, mais ça va du verset 1 au verset 8, eh bien, on voit qu'Ésaü a eu plusieurs épouses, cananéennes et la fille unique. C'est marrant parce qu'il y a une symétrie complète. Israël a eu 12 fils et une fille, Ismaël a eu 12 fils et une fille. Une symétrie complète des deux comme ça. Et voilà, il y a le jumeau de Jacob, lui, il se marie avec la fille. Alors, c'est étonnant. Et voilà, il y a une fille cananéenne qui s'appelle Ada, et il nous est dit, Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Et la fille d'Ismaël, qui s'appelait Basmat, enfanta Réuel. Et alors, on voit qu'Éliphaz, lui, qui descend des Cananéens, Éliphaz va avoir 6 garçons, dont le fameux Amalek. Donc, on a ici l'origine d'Amalek, qui est à la fois descendant d'Ésaü, celui qui aimait la chair, et de Canaan. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu de Canaan, parce que on voit que Ésaü a des liens avec la terre de Canaan à travers ça, dans la région de Jérusalem. Et on dirait qu'il fait fi de ce que Dieu a dit, que Canaan soit maudit. Rappelez-vous, quand Noé est sorti du bateau, il s'est produit un événement que l'on rapporte très modestement dans la Bible. C'est que, bon, Noé a planté des vignes, il a bu du vin, et puis il s'est produit quelque chose. Et là, il est dit que c'était Cham, et sans doute Canaan, qui était là, sans doute, on n'en est pas sûr. Mais Cham, il est dit qu'il vit la nudité de son père. Bon, et là, certains juifs disent que ce mot « vit la nudité » n'est pas seulement « voir », mais que c'est vraisemblablement qu'il a abusé de son père. Et c'est la raison pour laquelle il a été maudit. Donc c'est extrêmement très, très grave ce qui s'est produit là. Et cette malédiction, elle repose sur Canaan. Et on voit qu'ici, Ésaü se marie et donne, avec une femme de Canaan, et donne un certain Amalek. Et cet Amalek, il a la racine qui vient de loin. Et il va avoir une haine terrible contre Israël. Alors, les Juifs, dans la tradition juive, on dit que dans les fils d'Éliphaz, ils étaient 6, il y avait Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kénaz, et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, elle enfanta aussi à Éliphaz Amalek. Théma s'est installée dans la région de Pétra, Omar a sans doute fondé la principauté d'Omar, et la tradition juive, et ça donc j'ai dû fouiller pour le retrouver, rapporte que Tsepho était un chef militaire et selon la plupart des commentateurs, le fondateur de Rome. Et c'est ainsi que, à travers ces recherches-là, on arrive à rattacher Ésaü à Rome. Maintenant, je vais vous dire une autre chose concernant Rome. Vous savez que Daniel a donné des prophéties, et notamment sur les 4 royaumes. Le dernier royaume étant Rome. Les anciens, dans l'Ancien Testament, n'avaient pas vu la parenthèse de la grâce. Donc, quand les événements se sont produits Et notamment, quand le temple a été détruit en 70, les Juifs se sont dit, bah alors, le quatrième royaume va s'effondrer. Hein? Puisque ça devait se produire comme ça. Mais ils n'ont pas vu que la parenthèse, elle s'était ouverte. Alors pour eux, ça a été un problème assez fabuleux. Et ils se sont dit, mais comment ça se fait que Rome ne s'effondre pas? Et ils ont dû trouver des raisons. Et ces raisons, eh ben, ils ont dit, aussi longtemps que le nombre qui a été fixé d'avance n'est pas complet, la création ne sera pas sauvée. Voilà, c'était leur raison. Donc ils ont trouvé un artifice. Mais n'empêche que Rome est restée. Et qu'à partir du deuxième siècle, quand ils devaient parler en mal de Rome, parce que pour eux, Rome, c'était ce qu'il y avait de pire, ils ont donné deux surnoms à Rome. Le premier, c'était Babylone, et le deuxième, c'était Édom. Et on retrouve encore l'attache entre Rome et Édom, vous voyez ? Alors, Rome est venue incarner le mal sur la terre, pour eux, de sorte que le terme biblique « méchant » fait immédiatement penser à Rome. Et il y a de nombreuses figures qui peuvent incarner le méchant dans la Bible, mais une seule l'incarne de façon permanente et persistante, c'est le propre frère de Jacob, Ésaü. Et cette vision de Rome va se développer à partir du IIe siècle. Alors, les rabbins ont toujours des petites histoires, donc je vous en donne une deuxième. Les rabbins ont écrit... Deux nations sont dans ton sein, deux nations possédant chacune son univers propre, l'une la Torah, l'autre le péché. Voyez que les rabbins disaient, voyez. Alors, Ésaü, Genèse 27, verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, que son père avait béni, Ésaü disait en son cœur, « Les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Donc ça t'est enraciné profondément. Alors, la mémoire juive est tellement frappée par ça que tous les ans, à l'anniversaire de la chute du Temple, le 9 d'Av, vous savez, le 9 d'Av, c'est quelque chose, hein, parce que le premier temple est tombé le 9 d'Av et le deuxième temple est tombé le 9 d'Av. Et le 9 d'Av, c'était encore autre chose. Il y a cinq choses qui se sont produites le 9 d'Av. C'est une journée terrible pour Israël. Et alors, ils lisent tous les ans ce verset qui dit dans Lamentations 4, versets 21 et 22, « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. » Alors, ce jugement qui va tomber sur Édom, c'est-à-dire l'Occident, vu par Israël, c'est l'Occident, et en particulier Rome, c'est-à-dire l'Europe. Ce jugement tombera par la main d'Israël. Il nous est dit dans Ézéchiel 25, au verset 4, « J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère. » Donc vous voyez qu'il va se produire là, des événements absolument étonnants. Alors, évidemment, Ismaël et Édom sont deux personnages qui sont liés dans la Bible. Et ce sont, en quelque sorte, deux déshérités. Hein? Ils sont unis par le mariage, comme Rome, et une partie de l'islam. Alors ça, il faudra que j'en parle un tout petit peu, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans des débats politiques. Hein, mais Vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 35-40 ans maintenant, il y a des choses qui se font par en dessous. Hein ? Des relations qui ont démarré à partir de la France, qui se sont étendues à toute l'Europe et au monde islamique. De telle sorte que des accords ont été passés, et tout ça sous le nom générique Eurabia. Vous pouvez, si vous voulez, consulter Internet, vous tapez Eurabia, vous apprendrez plein de choses. Il existe également un livre qui s'appelle Eurabia, qui a été écrit par une juive, que je vous conseille si vous voulez avoir des détails. Mais il y a actuellement un mariage de raison qui se fait entre l'Europe et, on va dire, le monde arabe. En tout cas, ce qui fait le tour de la Méditerranée. Nous, Européens, nous avons besoin de l'énergie. Et eux, ils ont besoin de notre soutien politique et militaire pour pouvoir mettre à genoux Israël. Et dans tous les accords qui sont passés, toujours en tête, on fait référence à Israël, oh non pas pour le détruire, mais pour qu'il retourne dans ses frontières de 1948, indéfendables, et pour qu'on amène des populations arabes autour, de telle sorte qu'il soit étouffé et que ce pays se transforme peu à peu en un pays arabe. C'est ça la vision. Alors ça fait de mal à personne, on ne tue personne. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et si vous reprenez le psaume 83, il est dit au verset 6, ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, et puis d'autres. Et puis vous allez trouver un peu plus loin, alors on ne va pas tous les citer, mais vous allez trouver un peu plus loin Amalek, celui qui descend directement de Canaan. Alors, vous savez, Amalek, vous connaissez l'histoire, c'est celui qui se battait contre Israël dans le désert, alors que Moïse était sur la montagne avec ses bras en l'air, et puis avec Hur et Aaron qui tenaient ses bras. Et Josué se battait en bas contre Amalek. Vous vous rappelez de ça? Bon, Amalek, c'est un lâche. Parce qu'Amalek, qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait les traînards d'Israël. Tous ceux qui avaient du mal à avancer, les vieux, les enfants, les malades, tous ceux qui étaient boiteux, qui suivaient Israël, ils étaient attaqués par Amalek. Alors c'est un lâche. Et dans la vision de la Bible, eh bien, c'est la quintessence de la méchanceté et du mal. Et c'est la haine du juif à l'état brut. Et cet Amalek, il vit au milieu d'Ésaü. Il vit au milieu de l'Occident. Et si vous reprenez toute l'histoire des Juifs depuis des siècles, c'est pas les Chinois hein, qui ont du mal à Israël, c'est l'Europe, sous couvert d'un tas de choses. C'est l'Europe. Et cet Amalek, eh bien, on l'a retrouvé depuis toujours, depuis toutes les générations. Et Dieu l'a dit, il y aura guerre de génération en génération. Le dernier en date, si on peut dire, d'Amalek, c'était Hitler. Et Hitler, il a réussi à lever tout un pays contre les Juifs. Alors, comment est-ce qu'il fait Amalek? Eh bien, ce sont des gens qui maudissent viscéralement les Juifs. Par tous les moyens, que ce soit par les médias, que ce soit par les armes quand ils le peuvent, par la finance, mais surtout, ce sont des gens dont la force est d'abord dans le discours. Amalek par lui-même, c'est un faucheton. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des discours antisémites, et puis il va essayer d'embrigader par ses discours ceux qui ont plus de force que lui. Et c'est comme ça que par influence, en injectant les pensées antisémites en Occident, essentiellement, eh bien, à un moment donné, se lève une armée, se lève un pouvoir qui va faire mal à Israël, et à chaque génération, ça arrive. Et ça a pris différentes formes. Ça a pu être autrefois l'Église romaine, ça a pu être... Il y a différentes formes, hein, qui ont massacré les Juifs. Et dans Exode 17, au verset 14 à 16, il nous dit « Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Et donc, on voit finalement cette union qu'il y a entre Ismaël qui voudrait chasser de sa terre les Juifs, Ésaü qui, matérialiste, se fiche pas mal de la foi en Dieu, mais qui a construit, a une activité, rappelez-vous, c'est faire, une activité débordante en Europe, et dans son sein, des Amalecs. Et tout ça fait une alliance. Et cette alliance, elle a pris un visage, elle s'appelle Eurabia. Et Eurabia, peu de gens le savent, renseignez-vous, vous verrez. Moi, je lus et j'étais effrayé. Alors, c'est un mariage de raison, et vous savez bien que Dieu ne va pas laisser faire tout ça. Ce qui risque d'arriver, et ça c'est moi qui le dis, comme c'est un mariage de la chair. Hein, rappelez-vous ce texte ici. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un d'une esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, Ismaël. Donc c'est la chair. Ésaü, c'est la chair. Mariage de raison par la chair égale au bout d'un moment la dispute. Et il faut s'attendre en Europe à des guerres civiles. Il faut s'attendre à des guerres civiles, bien sûr, parce que mariage de la chair. Et ça, ça va arriver. Mais l'objectif, c'est d'amener l'Europe contre Israël. Alors, pour citer encore d'autres choses, et puis après on va voir, j'ai encore du temps. Les Juifs utilisent la guématria. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la guématria. Ce sont les chiffres que l'on tire des lettres et que l'on additionne. Bon, eh bien, figurez-vous. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je vais vous le dire quand même. Ben Laden. Ben Laden, c'est un fils d'Ismaël. D'accord ? Ben, 52, plus Laden, 85. Plus Ben Edom, 52 plus 51, égal au total 240 Amalek. Je recommence. Ben Laden plus Ben Edom égal Amalek. Vous avez compris? C'est aussi le mariage là qui se fait. Hein? Alors, je voudrais maintenant aborder la deuxième partie du psaume. La deuxième partie du psaume, parce que qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il dit, traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Gison. Alors, ce torrent de Gison, il se trouve dans une vallée très connue, qui est la vallée de Jisréel. Et cette vallée de Jisréel, c'est l'endroit d'Armageddon, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Ben, c'est un endroit qui est quand même assez spécial, parce que si vous regardez la carte d'Israël, vous voyez que c'est une vallée qui démarre de la mer. Autrement dit, si on veut faire un débarquement, c'est l'idéal. Et vous suivez la vallée qui fait à peu près 35 kilomètres, sur 25 à peu près, et Napoléon l'a vu, cette vallée, il a dit que ce serait vraiment un lieu idéal pour faire la guerre. Et si vous prenez ce couloir-là, eh bien, c'est la route pour arriver à Jérusalem. Et donc, il faut absolument passer par là pour pouvoir prendre Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ils vont essayer de passer par là. Mais vous savez, c'est comme la femme samaritaine, la femme qui était adultère. Les gens voulaient la lapider. Et là, on va faire de la même chose. Pour ne pas faire porter la responsabilité sur un, on va aller chercher plusieurs peuples. Comme ça, personne n'est responsable. Et on aura détruit Israël. Vous voyez ? Alors, c'était un lieu qui était contesté dès le départ, ce lieu-là. Parce que c'était un lieu de guerre dès le début. Figurez-vous que, au moment du partage des terres par les 12 tribus d'Israël, cette terre devait revenir au fils de Joseph. Et dans Josué, on voit Josué leur dit « Mais allez donc dans la montagne, abattez les arbres, etc., prenez la place dans la montagne. » Et là, ils disent, Josué 17, « La montagne ne suffira pas, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent dans la vallée. » Et c'était justement cette vallée-là. Et donc, déjà à cette époque-là, c'était un lieu de guerre. Vous voyez ? C'était aussi le lieu où les Hébreux, les Juifs, avaient été soumis à cause de leur péché du temps de Déborah. Ils avaient été soumis et à un roi cananéen qui s'appelait Jabin. Dans le Juge 4, versets 1 à 7, on peut lire, « L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. » C'est justement celui qui est cité dans le psaume 83. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car il avait 900 chars de fer. C'est pas rien quand même, hein ? Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alors, Dieu donne une prophétie et il dit « J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Et donc, on voit ce lieu qui est dans le psaume 83, c'est ce lieu où s'est passée cette guerre-là. Il y a eu aussi une autre guerre très connue, c'est la guerre de Gédéon. Hein ? Et alors, Dieu a dit, « Oh, t'as bien trop de soldats, renvoie-les. » Et puis alors, il y a ce tri qui se fait, vous rappelez, la façon de boire, et il en reste plus que 300. Il en reste plus que 300, et en bas, c'est la vallée de Jisréel. L'armée d'Israël n'aura pas besoin d'autre chose que de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui va délivrer Israël. Et on le voit à travers la guerre ici de Gédéon. Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est exactement ce qui va se passer à la fin. Exactement. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Voilà la technique militaire de Dieu. Hein? C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui va se produire chez nous, frères et sœurs. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir la guerre civile chez nous, dans ce mariage qui se fait. Et ainsi, Israël sera protégé. Mais ce sera au moment crucial, au moment où on est prêt à attaquer Israël, il va y avoir le bazar ici. Ah oui. C'était aussi cet endroit, le lieu de combat contre les faux dieux menés par Élie. Élie dit à un roi 18, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. » Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Acab envoya ses messagers et tous les enfants d'Israël. Il les rassembla, les prophètes, à la montagne du Carmel. Mais la montagne du Carmel, elle donne sur la vallée de Jézréel. Saisissez les prophètes, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. Vous voyez, c'est le lieu de la victoire de Dieu, et de différentes manières. C'était aussi un lieu qui était convoité par Jézabel, et surtout par son mari Acab. Rappelez-vous cette histoire qui est citée dans 1 Roi 21, le fameux Naboth. Naboth avait un terrain, et vous savez qu'on ne pouvait pas vendre un terrain, ou en tout cas on le récupérait parce que c'était au bout de 50 ans, parce qu'on ne pouvait pas vendre quelque chose qu'on avait eu en héritage en Israël. Bon, eh bien ici, il y avait une vigne à Jizréel, et Naboth était de Jizréel justement, à côté du palais d'Akab. Et donc, cède-moi ta vigne. Il veut pas. Alors, c'est Jézabel, cette méchante femme qui représente la méchanceté à l'état pur, qui représente aussi Amalek finalement, et qui va faire un stratagème. Et ce stratagème, c'est de vouloir le lapider. Et voilà comment elle fait. Je vous le rappelle parce qu'il y a des paroles qui sont utiles à comprendre. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Déjà, elle triche. Qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient à Naboth, avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui deux méchants hommes. Deux. Qui déposèrent ainsi contre lui. Et qu'est-ce qu'on accuse, de quoi on accuse Israël depuis tant d'années ? D'avoir tué le Christ. Et à cause de ça, on a massacré les Juifs. Et qu'est-ce qu'elle dit, Jézabel ? Elle dit, tu as maudit Dieu. Accusez-le d'avoir maudit Dieu. Et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous voyez, c'est la même accusation. Et ça, on retrouve toujours par rapport à Israël, cette accusation. Alors, à cause de ça, évidemment, Jézabel et Acab, tous les deux, sont condamnés. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Acab. Et il ajoute un peu plus loin, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Donc vous voyez, c'est le point final là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Dieu ne fait rien par hasard. Et je voudrais, pour terminer, vous apporter ici encore une preuve que Dieu ne fait rien par hasard. Tout à l'heure, je vous ai parlé de de la mort de Saddam Hussein. Maintenant, il y a des textes que moi, il y a des textes que j'ai pas compris, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont longs à comprendre. On se demande pourquoi Dieu a fait ça. Vous savez que Ézéchiel était un prophète étonnant parce que Dieu lui a dit, tu vas te mettre sur le côté. Et voilà ce qu'il dit. Ézéchiel 4, versets 3 à 6. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle. Elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Et puis couche-toi sur le côté gauche. Mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu seras rachevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Moi, je vous dis franchement, pendant des années, j'ai rien compris à ce texte. Alors maintenant, je vais vous donner une explication que j'ai apprise cet été, puisque Dieu m'a remis en route sur cet aspect des choses. Dieu compte donc 390 jours pour Israël et 40 jours pour Juda. Ça fait 430 ans. Or, la déportation a duré 70 ans. D'accord ? Si je fais le calcul, 430 moins 70, il reste 360. 360 ans d'iniquité. Par ailleurs, lorsque les Juifs sont rentrés sous Zorobabel, en 535 avant Jésus-Christ, j'ai pris cette date dans la Bible Thomson. Le comportement du peuple par rapport à Dieu s'est pas vraiment amélioré. Et les Juifs ont été placés sous la domination des royaumes successifs. Après Babylone, bien sûr, ça a été la Perse, la Grèce et Rome. Et Dieu a appliqué une parole auquel on fait pas attention. Lévitique 26, verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés. Alors, comptons maintenant 360 ans qu'il restait, multiplié par 7, égale 2520. 2520 années juives, années prophétiques, donc de 360 jours. Si je ramène ça, ça fait 907 200 jours. En année de 365 jours, un quart, ça fait 2483 ans, 78. Si on compte 2483 ans, 78, à partir du retour, donc 535 avant Jésus-Christ, eh bien vous arrivez en 1948, naissance d'Israël. Voyez que Dieu est précis. Dieu est très précis, il tient tout dans sa main, qu'il soit béni et que tout soit fait pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pas compris. Je suis en train d'écrire quelque chose, mais je sais pas si. Je suis rien du tout, moi, vous voyez? Pour vous dire, par exemple, comment Dieu fait? Moi, j'étais faire une formation au Havre, et donc je suis allé 3 jours et 2 nuits au Havre. Et je cherchais les raisons qui poussent la Perse, l'Iran, à attaquer Israël. Bon, je sais bien que c'est des raisons islamiques, et l'Iran, c'est pas Ismaël, c'est autre chose. Bon, et j'avais entendu parler du grand Mahdi, parce que les Ismaélites, et puis surtout les islamiques attendent le retour du grand Mahdi, qui est un prophète. Bon, vous savez qu'il y a les chiites et les sunnites. 90% de sunnites et 10% de chiites. Les chiites démarrent du Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, et maintenant avec le Hezbollah, Liban. Autrement dit, les chiites forment une barre au nord d'Israël et ont un pied en Méditerranée. Bon, et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent la bombe atomique? Pourquoi est-ce qu'ils veulent attaquer Israël? Et c'est ainsi que, en étant au Havre, moi j'étais en train de taper ce que je suis en train d'écrire, et à un moment donné j'en avais assez, alors je suis allé me promener. Et je suis arrivé donc dans la petite zone commerciale, il n'y a pas grand-chose au Havre, c'est très mortel le Havre. Hein. Et c'est une ville terrible, je trouve. Peut-être. En tout cas, ce que j'en ai vu, pouf. Bon, et là, je suis allé à la FNAC, dans le rayon islamique. Et il y avait un Africain qui était en train de bouquiner quelque chose, là. Alors, j'ai regardé tous les livres et je trouvais rien qui m'intéressait. Et puis, au moment où ça sonne qu'ils vont fermer le magasin, cet Africain, il remet le livre. Alors, je le tire et c'était toutes les prophéties islamiques. Merci Seigneur, parce que j'ai appris plein de choses. Et voilà comment le Seigneur conduit depuis des mois et des mois et des mois, comme ça, sur la fin des temps, pour que je puisse apprendre quelque chose. Et en fait, il m'a mis en route il y a 35 ans. J'avais donc étudié ça à travers les livres chrétiens, mais maintenant il me donne d'autres choses. Et quand moi je vais à Paris, je file, dès que j'ai un peu de temps, je file dans les librairies juives, tout le temps. Hein, tout le temps, parce que... Et là, j'apprends d'autres choses. C'est comme ça que je fais. Alors, les chiites attendent... C'est vraiment typique des chiites, ça. Pas les sunnites, hein. Mais ils disent que Mohammed a eu des successeurs par son quatrième... par son beau-frère. Donc, c'était le beau-frère Ali, qui a été assassiné. Et à ce moment-là, il y avait une division qui s'est faite entre ceux qui suivaient la tradition qui s'appelle la Sunna, donc c'est devenu les sunnites, et ceux qui suivent les descendants d'Ali. Bon, et ils disent qu'il y a 12 descendants d'Ali. Mais le onzième, c'était aux alentours du 8e siècle après Jésus-Christ. Il a disparu. Il a disparu. Et ils prétendent qu'il va revenir. Et Israël dit que l'Iran veut attaquer Israël pour faire venir ce Mahdi plus vite. Ça, c'est la raison fondamentale. C'est pour ça que c'est pas une raison. On n'y fera rien à cette raison. C'est une croyance. Donc, c'est dans leur trip. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Europe, c'est pas enregistré là, on est plutôt en train de faire alliance avec plutôt les sunnites, et qu'il y a une jalousie entre les sunnites et les chiites. Une jalousie terrible, ils sont même sur le point de se battre. Hein. Donc, il ne faudrait pas... Alors, mon opinion pour le moment, je vais peut-être en changer au fil, parce que, vous savez, le Seigneur, il ouvre au fur et à mesure du temps, hein, les histoires de fin des temps. Mais il doit se produire une guerre, qu'on appelle la guerre de Gog, qui est décrite dans Ézéchiel 38-39. Bon, cette guerre de Gog, elle est menée par un pays qui est au nord et qui est donc Gog, au pays de Magog. Vous savez que la muraille de Chine, autrefois, s'appelait la muraille de Gog. Donc, ça vient du haut, et certainement mené par la Russie, mais en tout cas avec la Perse, donc l'Iran. Et eux, ils vont se faire massacrer sur les montagnes d'Israël. Et ça n'est pas la guerre d'Armageddon. C'est une autre guerre. Parce que tout le monde n'y est pas. Et vraisemblablement, et c'est mon opinion, hein, mais je peux me tromper, il faut qu'il y ait un événement majeur qui fasse qu'à un moment donné, il y ait une paix signée entre Ismaël et Israël. Or, la question du mont du Temple, elle est au cœur de tout. Parce que il y a la mosquée qui domine et en bas, il y a les autres. Ça, c'est la domination de l'islam par rapport au judaïsme. Et à un moment donné, il va y avoir autre chose. Et pour qu'il se produise ça, il faut que les Arabes, les sunnites en particulier, parce que je pense que les autres, ils auront une tannée avant, les sunnites, il faut qu'ils reconnaissent que Dieu veut tenir quelque chose pour Israël. Et alors là va se produire un événement que je ne connais pas, mais qui va conduire à la signature et à la reconstruction, au moins le lancement de la reconstruction du temple, parce que ce temple, il doit être construit au milieu des 7 ans. Hein? Et donc, là, nous, chrétiens, nous verrons, si nous ne sommes pas morts, bien sûr, nous verrons, parce qu'il est écrit que nous devons voir l'homme du péché. Donc nous verrons celui qui va faire cette signature entre les deux et qui va donc lancer la reconstruction du temple. Mais dès que ça sera sonné, je veux dire dès que ça sera signé, eh bien, il n'y aura plus de temps. C'est mon opinion. Moi, je pourrais vous donner 14 raisons pour lesquelles... Je vais les donner à la prochaine étude à la maison, d'ailleurs. Les 14 raisons pour lesquelles l'enlèvement se fait à la signature, juste après la signature, c'est-à-dire juste avant les 7 ans. Hein? Et donc, entre le temps de la signature et l'enlèvement, il n'y a plus de temps de se convertir. Et c'est là qu'on voit la parabole des 10 vierges, où ces 10 vierges, eh bien, elles n'ont pas le temps de se convertir. Celles qui ont été parties chercher de l'huile, tant pis. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est beau aussi, c'est très beau, Dieu a donné des fêtes, c'était la dernière étude que j'avais fait à la maison, Dieu a donné des fêtes, 7 fêtes, hein, et le déroulement de la fin des temps se fait suivant le déroulement de ces fêtes. Vous savez... Vous n'en avez pas marre ? Ceux qui ont faim. Non, mais très rapidement. Deux minutes. Oui, on peut... Oui. Si je sais répondre, parce que je ne sais pas répondre à tout. Oui, 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 vas-y.
Alors, tous les premiers vendredis du mois, le soir, chez Daniel et Véronique, c'est entamé depuis deux vendredis, et tous les vendredis, il y a
chez nous, à 8h moins le quart, je peux vous donner mon adresse, notre adresse, si vous voulez.
Thank you.
Alors bien sûr, je suis un plan, et la fois prochaine, c'est des choses que vous connaissez sûrement, c'est la prophétie des 70 semaines, le temps de la grâce, et les 14 raisons pour lesquelles on va être enlevé avant la dernière semaine. Donc ça, c'est les prochains thèmes.